Bonjour à toutes et à tous, à la une de ce journal, Jean-Pierre Geneviève, l'inspecteur d'académie et directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère, qui a évoqué dernièrement la rentrée scolaire en conférence de presse, la qualifiant de particulièrement sereine. Selon Brotableau, une légère baisse des effectifs de l'ordre d'une soixantaine d'élèves. Le département qui compte 8300 enfants dans l'enseignement public, réparti comme suit, 4500 à l'école, 2400 au collège et 1400 au lycée. Les effectifs à peu près stables qui ont permis de ne fermer aucune classe, mais également d'en ouvrir aucune. Écoutez Jean-Pierre Geneviève, inspecteur d'académie et directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère.
On n'a pas de mesures à effectuer à la rentrée, donc mesures de fermeture, ni d'ouverture d'ailleurs. À l'heure actuelle, on est en train de finaliser le bilan de rentrée hein, des effectifs, mais globalement, on n'a pas de surprise. Hein. C'est la raison pour laquelle je disais que la rentrée s'était déroulée conformément à nos prévisions. Alors c'est un constat que nous faisons depuis quelques années dans le département, premier degré, maintenant au niveau du collège. Alors c'est une érosion lente, hein, ce n'est pas une chute brutale des effectifs, mais c'est vrai que globalement c'est une vingtaine d'élèves, une trentaine d'élèves hein, que nous perdons chaque année en collège. Et puis peut-être au niveau du premier degré, c'est un petit peu plus fluctuant, puisque l'année dernière, par exemple, hein, nous nous attendions à une baisse d'une trentaine d'élèves, et puis nous avons eu la bonne surprise de constater que nous avions accueilli 30 élèves en plus. Donc là, c'est le travail que nous faisons à l'heure actuelle, hein, avec les directeurs d'école, les inspecteurs de circonscription, pour stabiliser le constat des effectifs.
Et entrant dans la dernière phase de la loi de refondation de l'école, de nombreux changements sont opérés cette année.
Alors nous rentrons dans un cadre de mise en œuvre de la loi de refondation de l'école, donc la dernière phase, avec des innovations importantes, premier degré, second degré, notamment avec la rénovation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, hein, qui va s'appliquer donc à tous les élèves de la scolarité obligatoire. Du cours préparatoire à la classe de troisième, la refonte des programmes hein, qui est généralisée. Nous avions commencé à la rentrée 2015 par la maternelle et nous poursuivons donc sur tous les autres cycles d'apprentissage pour la rentrée 2016. C'est la poursuite, la mise en œuvre évidemment de la réforme du collège hein, qui était longuement préparée par les équipes, par les chefs d'établissement l'année dernière, et puis pour le département également pour nous la poursuite notamment du déploiement des usages du numérique tant dans le premier degré que dans le second degré, puisqu'on est dans un département dans lequel les équipes s'engagent assez fortement dans ce domaine. Et puis nous continuerons également à être attentifs à la scolarisation des élèves de moins de 3 ans, puisque c'est une caractéristique de notre département, puisque nous scolarisons très jeunes les élèves, et ce, dans des proportions importantes.
Et 50% des élèves de moins de 3 ans sont scolarisés dans le département. Parmi les changements, un ne passe pas auprès de certains syndicats. Il s'agit de la réforme du collège. D'ailleurs, jeudi dernier, soit 8 jours après la rentrée, l'intersyndicale appelait à une première grève pour protester contre cette réforme. Une grève très peu suivie dans la rue comme dans les écoles. Pourtant, la poignée de personnes mobilisées n'en démord pas. Cette réforme n'est pas bonne. Écoutez Hervé Fumel, co-secrétaire départemental de la FSU.
La réforme des collèges qui a été imposée par la ministre s'applique à cette rentrée avec toutes les conséquences négatives de cette réforme, alors que ces conséquences négatives sont très nombreuses. Il y a des conséquences négatives très matérielles, je pense en particulier à la mise en place des emplois du temps, qui sont très problématiques pour les élèves de collège et parfois pour les profs de collège. Cette réforme se met en place et les équipes de direction des collèges donc ont pris en main tout ce qui s'appelle les EPI, les enseignements interdisciplinaires, hein, l'aide personnalisée, mettant un pied dans un domaine qui n'est pas le leur. Ce sont des personnels de direction, des administratifs, des gestionnaires, mais ce ne sont pas des pédagogues. Et donc les enseignants refusent complètement de se voir dépossédés de ce qui est leur professionnalité. À savoir pouvoir décider en tant que fonctionnaire de catégorie A de monter les cours comme on les entend, de faire de l'interdisciplinarité comme on l'entend, de l'aide personnalisée comme on l'entend, sans avoir à répondre à des ordres de petits hiérarques locaux qui, pour certains, peuvent se considérer déjà comme des patrons comme ça se fait dans le privé.
D'après Mélanie Azaïs, enseignante en histoire-géographie au collège Henri Bourillon et co-secrétaire départementale du SNES-FSU, cette réforme pénalise doublement les collégiens.
Ils sont doublement pénalisés, d'abord parce que les systèmes qui existaient auparavant, même s'ils n'étaient pas totalement efficients, sont supprimés, c'est-à-dire qu'ils perdent des heures de cours sur l'ensemble de la scolarité au collège. Alors avec moins d'heures de cours, il va falloir faire mieux, ça risque d'être compliqué. Et que les groupes qui existaient précédemment, par exemple, de dédoublement en sciences pour faire des expériences, en technologie ou en langue parfois, ben aujourd'hui ça devient compliqué de les mettre en place. Et par exemple en français et en mathématiques, en sixième, ils avaient des heures d'ATP pour pouvoir travailler en groupe restreint, là aussi, ben vraiment restreint. 8 à 10 élèves, ces heures-là n'existent plus et il faut prendre sur les heures d'enseignement disciplinaire pour faire du travail différencié en classe entière. Ça devient compliqué.
Et au final, seulement une dizaine d'enseignants, pour la plupart syndicalisés, se sont retrouvés dans la rue jeudi dernier. Le département de la Lozère a subi au cours de l'été 2015 et notamment pendant les mois de juin et juillet un épisode de sécheresse qui a impacté la production fourragère. En mars dernier, le comité national a validé la demande de reconnaissance pour l'ensemble du département à un taux de perte de 35%, à l'exception des communes de Saint-Léger-du-Malzieu et de Saint-Privat-du-Faux, touchées également par la grêle, qui se sont vues reconnaître un taux de 58%. Un acompte correspondant à un peu moins d'un tiers de l'indemnisation a été versé fin août pour quasiment l'ensemble des dossiers. Une demande d'enveloppe complémentaire pour le paiement du solde sera effectuée auprès du comité national pour un paiement des soldes prévu fin 2016. Et alors que la sécheresse continue à toucher encore le département, la ville de Mende prend les devants concernant les éventuelles crues. Laurent Suot, le maire de Mende, rappelle aux habitants de la ville qui résident à proximité des berges du Lot ou de ses affluents dans la traversée de la ville que la commune est équipée d'un système d'alerte téléphonique d'annonce des crues. Il est toutefois nécessaire de s'inscrire auprès des services municipaux, soit directement à l'accueil de la mairie, soit sur le site internet de la ville, mende.fr, pour bénéficier de cette alerte. Les nouveaux arrivants sur Mende, ainsi que les personnes qui ont déménagé, qui résident donc dans les secteurs à risque de la ville, sont invités à s'inscrire à ce service mis en place par la commune pour ses habitants. Ce système d'appel, lorsqu'il est enclenché par le maire de Mende, prévoit la possibilité de prévenir les personnes enregistrées de manière multiple, garantissant ainsi un taux de réussite maximal d'information dans un temps le plus court possible. En économie, Lozère Développement lance Cher Lozère, un programme d'émergence et d'accompagnement entrepreneurial, car la Lozère regorge d'idées, de compétences, de talents, de ressources, mais le territoire rend parfois difficile les rencontres qui pourraient les révéler. Et toutes les initiatives qui le méritent n'aboutissent pas toujours à la création d'une entreprise, faute d'avoir constitué la bonne équipe et identifié les bons partenaires dans les réseaux locaux, régionaux et nationaux. Et pour mettre en relation les idées et les talents et provoquer des étincelles, Lozère Développement lance donc un projet d'accompagnement à l'entreprise. Entrepreneuriat Cher Lozère. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent s'engager à titre personnel ou engager leur entreprise dans une dynamique d'innovation ouverte et collaborative. Écoutez Sébastien Auziol, directeur de Lozère Développement.
L'idée, elle vient de loin parce que c'est vraiment dans l'objet de l'association, c'est dans les missions de Lozère Développement de faire émerger des projets du territoire. On s'est rendu compte que depuis plusieurs années, on était focalisé sur la prospection de projets à l'extérieur, et c'est toujours une mission fondamentale de Lozère Développement, on est toujours là pour ça, mais on a décidé, le nouveau conseil d'administration de Lozère Développement a décidé de s'occuper plus particulièrement du territoire lozérien et d'accompagner les Lozériens qui souhaitaient entreprendre. Tous les types de projets sont concernés. Il y a forcément l'envie de se différencier, l'envie de se distinguer, l'envie de collaborer, l'envie d'entreprendre à plusieurs, d'aller inventer des solutions nouvelles. Cette notion d'innovation, elle est importante, mais c'est pas une clé d'entrée. C'est-à-dire qu'il faut pas se considérer ou se penser innovant pour souhaiter entreprendre dans le cadre de ce programme d'émergence. On arrive comme on est et on sortira forcément innovant à la fin, parce que les méthodes qui vont être mises en œuvre dans l'accompagnement des candidats vont rendre les projets innovants, alors pas innovants technologiquement s'ils ne le sont pas au départ bien entendu, mais innovants sur le plan de leur modèle économique. Il y aura de tout, j'espère, et j'espère qu'il y aura, comme le montre notre affiche, notre illustration, notre dépliant, des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des industriels, des projets dans le domaine des services, dans le domaine des énergies. Évidemment, les technologies numériques seront forcément présentes. Les usages aujourd'hui des technologies numériques bouleversent notre quotidien, donc on sait que forcément ça va donner lieu à des candidatures, mais c'est pas la clé d'entrée.
Cher Lozère, qui est un parcours en quatre étapes.
Mathieu?
C'est un parcours, en fait. Charles Lozère, c'est un parcours en quatre étapes. On part de son village, en quelque sorte. On part du très local. C'est pour ça que les ateliers de territoire qui se tiendront en septembre et octobre prochain, bah, ils ont lieu dans des hameaux, dans des petits villages de Lozère. Il y en a six. Et puis, à partir de ces ateliers, on va passer à une étape plus départementale de rassemblement qui aura lieu le 7 novembre à Mende, où se rencontreront tous les participants à la phase préalable des ateliers. Et après, les projets qui se seront formés à ce moment-là de rassemblement, iront se présenter dans des écosystèmes, en fait, dans des réseaux d'innovation, d'entrepreneuriat au niveau régional, à Toulouse et à Montpellier. Ça sera avant la fin de l'année, probablement à la fin du mois de novembre. Et enfin, ceux qui auront franchi cette étape-là avec succès pourront aller présenter leur projet au niveau national à Paris, puisqu'on a deux partenaires de niveau national là, qui nous accueilleront, le Crédit Coopératif, le siège parisien, et la Fabrique des Territoires Innovants, qui est aussi un partenaire qui est à Paris et qui nous suit depuis longtemps.
Et les ateliers vont débuter dès aujourd'hui. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de Lozère Développement pour ce programme entrepreneurial. Enfin, les archives départementales de la Lozère proposent jusqu'à la fin de l'année une exposition sur Marius Balmel, un érudit au service de la Lozère, qui est né en 1892 et mort en 1969.